VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Annoncé aujourd'hui la création d'un mouvement citoyen pour permettre l'organisation d'élections législatives et présidentielles transparentes d'ici la fin de l'année. Le mouvement a été baptisé Témoins Actifs à l'initiative de la très contestataire Confédération syndicale dynamique unitaire, notamment présente dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Outre les syndicats, des associations étudiantes et plusieurs ONG de la société civile gabonaise ont signé une charte en faveur d'élections transparentes au Gabon. Le président burundais Pierre Nkurunziza a donné 15 jours aux insurgés de la commune de Mugamba dans le sud du pays pour se rendre en les menaçant d'une répression semblable à celle pratiquée dans la province de Bujumbura rurale en 2010. Mugamba est considéré par le pouvoir comme le dernier foyer de rébellion du pays, selon des sources sécuritaires. Une nouvelle rébellion née de la contestation du troisième mandat de M. Nkurunziza s'est installée dans cette commune de la province de Bururi, à quelques 80 km au sud de Bujumbura, d'où elle mène des attaques dans le secteur environnant. L'ambassadeur de la RDC à Washington, François Bolumwane, a confirmé à VOA Afrique le décès mardi de l'abbé Apollinaire Malumalu, l'ex-président de la Commission électorale nationale indépendante congolaise, qui était en fait cet homme qui a organisé les premières élections démocratiques au Congo, Kinshasa. Eddie Sango a posé la question au rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba. On l'écoute.
Prêtre de diocèse de Butembo Beni, Malumalu Apollinaire, avait quatre dimensions. C'était un homme d'État qui a travaillé dans l'extérieur, dans les Léo pour la paix dans ce pays. Un intellectuel confirmé, un formateur parce qu'il a tracé un cursus à suivre pour que celui qui entre la première fois dans le domaine de l'élection puisse en avoir le cœur net. J'ai connu un homme d'État qui part dans la nuit, vous lui posez un problème du travail, par message, une heure, 5 minutes, 10, après, il vous donne la suite. J'ai connu celui qui s'est préoccupé et du pays et de son or, grand or natal, et monsieur qui était au four et au moulin pour l'intérêt de ce pays. Je connais Apollinaire, Omer, Assembler.
Vous avez été avec lui avant qu'il ne vienne aux États-Unis pour des soins. Comment avait-il vécu ces temps? On parle d'une maladie.
C'était un monsieur soucié de ce pays. Soucié parce que de son hôpital en Afrique du Sud, il est resté disponible quand l'état de santé lui permettait de résoudre les problèmes qui s'est passé au pays. À deux ou trois reprises, il a dit quitter son lit d'hôpital pour venir cheminer avec nous en vue de publier le calendrier le 12 février 2015. C'est quelqu'un qui pouvait s'oublier soi-même pour l'intérêt du pays.
Il a été à la tête de la Commission électorale nationale indépendante en 2006, mais en fait, les élections qui ont été contestées avec des affrontements à Kinshasa, même sa personne parfois a mis en cause. Or, comment est-ce qu'il a vécu cela?
Il demanda à quelqu'un de lui prouver que les élections de 2006 étaient mal organisées. Il expliquait les affrontements par d'autres critères et faits. Quand il y a eu les mauvais, les élections de 2011, les gens reconnaissaient que les élections de 2006 étaient bien faites et que il y a eu des troubles pour d'autres raisons.
Sa maladie, en fait, ce que nous apprenons aujourd'hui, semble avoir laissé un trou en RDC, si bien qu'aujourd'hui, on n'a pas un calendrier électoral encore.
Ce n'est pas seulement en RDC. Les gens liaient le nom de Malumalu à l'école de formation électorale de l'Afrique centrale, FAEAC. Ils liaient ça au refait que les réseaux du savoir électoral de l'Afrique centrale. Les anglophones de SADC ne te diront pas contrairement parce que j'ai été le représentant au Conseil consultatif électoral en Afrique du Sud récemment. C'est une tête que l'Afrique et le monde a perdu en Jordanie. Tout le monde connaissait qui était Malumalu et quel était son degré de connaissance en matière électorale.
Jean-Pierre Kalamba, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante congolaise.
VOA Afrique, en direct de Washington.
La gendarmerie et la police burkinabé ont arrêté 6 personnes étrangères suspectées d'être impliquées dans les attentats de Ouagadougou. Selon les premiers éléments de l'enquête, ces personnes auraient hébergé et facilité l'action des auteurs de l'attentat et seraient en liaison avec le cerveau qui est toujours recherché selon les autorités burkinabées. Le 15 janvier, un commando de 3 assaillants ont attaqué l'hôtel Splendid, le café-restaurant Cappuccino, l'hôtel Yibi et le bar Taxi Bruce situé sur l'avenue Kwame Nkrumah, la plus fréquentée de la capitale burkinabé. Ils ont tué 30 personnes, majoritairement des étrangers, et fait 71 blessés. Ces attaques ont été revendiquées par Al-Qaïda au Maghreb islamique ACMI. Le sud-est du Nigeria, région pétrolière, est attaqué depuis plusieurs mois par un nouveau groupe armé, les Vengeurs du Delta du Niger, NDA. C'est un défi politico-sécuritaire pour le président Muhammadu Buhari qui effectue ce jeudi sa première visite dans la région. Tatiana Mosso.
Les Vengeurs du Delta du Niger se décrivent eux-mêmes comme jeunes et d'un bon niveau d'éducation. Compte tenu de la complexité de leurs attaques sur les infrastructures pétrolières, il serait fort probable que certains de leurs membres soient des ex-combattants issus d'anciens groupes armés. Ils ont des plongeurs professionnels, donc un certain niveau de compétences et de connaissances dans le secteur pétrolier. Toutefois, l'organisation hiérarchique du groupe est moins connue, à l'exception d'un noyau dur composé de 100 à 150 personnes. Tout comme les anciens groupes rebelles, les NDA réclament une meilleure répartition des revenus pétroliers, une amnistie financière, le nettoyage du désastre écologique dans le Delta et des compensations pour les populations. Ils défendent également des idées séparatistes comme la création d'un État indépendant dans le sud-est du Nigeria. En 2009, le Nigeria avait signé un cessez-le-feu avec le mouvement pour l'émancipation du Delta du Niger, le MEND, et avait mis en place un programme d'amnistie, de compensation financière et de formation professionnelle. Mais depuis la chute du baril du pétrole et la crise financière qu'elle a engendrée pour un des plus importants producteurs d'or noir du continent, le pouvoir peine à trouver de l'argent pour financer cet accord.
Le président du Ghana, John Dramani Mahama, a commencé hier une visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire. Les deux pays se disputent une zone pétrolière offshore. Claire Morin-Gibou.
John Dramani Mahama, accompagné d'une forte délégation, a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, respectivement deuxième et troisième économies d'Afrique de l'Ouest, ont un litige sur le tracé de leurs frontières maritimes. Plusieurs compagnies pétrolières ont annoncé ces dernières années d'importantes découvertes dans cette zone litigieuse. L'affaire a été portée par Abidjan devant le Tribunal international du droit de la mer, qui a ordonné l'année dernière à Accra de limiter son activité pétrolière dans la zone disputée en attendant la décision finale prévue en 2017. Un mois plus tard, les deux présidents s'étaient rencontrés, à la surprise générale, le 12 mai 2015 à Genève, grâce à la médiation du Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. À l'époque, il n'y a pas eu d'avancée notable.
Au moins 10 personnes, dont 2 députés, ont été tuées dans une attaque visant un hôtel de Mogadiscio en Somalie. Cet attentat a été mené quelques heures après l'annonce par les autorités somaliennes de la mort du cerveau présumé de l'attaque perpétrée par les Shebab contre l'université de Garissa dans l'est du Kenya, qui avait fait 148 morts en 2015, dont 142 étudiants. L'attaque a été revendiquée par les Shebab.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra une réunion d'urgence demain sur la Syrie. C'est pour décider si des largages d'aide humanitaire doivent être effectués après que le régime de Damas a autorisé des convois humanitaires à accéder à 2 villages assiégés. Selon l'ONU, 592 000 personnes vivent dans des villes assiégées, principalement par les forces du régime de Damas, et 4 millions sont dans des zones difficiles d'accès. Les quelques 50 000 civils pris au piège dans Fallujah en Irak n'ont aucun moyen de sortir en toute sécurité de la ville, totalement assiégée par les forces irakiennes et activement défendue par le groupe État islamique. Leur présence en grand nombre ralentit les opérations de reconquête entamées la semaine dernière par les forces gouvernementales, selon le premier ministre Haider al-Abadi, et permet à l'État islamique de les utiliser comme bouclier humain, selon l'ONU. Et puis, on termine en sport avec l'attaquant du Barça, Lionel Messi. Il est arrivé aujourd'hui au tribunal de Barcelone pour s'expliquer sur l'affaire de fraude fiscale qui empoisonne sa brillante carrière depuis 3 ans, à quelques jours du premier match de sa sélection argentine à la Copa América. La majorité de l'audience a applaudi et ovationné le quintuple Ballon d'Or, mais à son passage, ont aussi fusé des cris « Petit voleur, va jouer à Panama ». C'est la fin de ce bulletin d'information. Le prochain vous sera présenté dans 50 minutes par Henri Francisque. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.